Bonjour à tous. C'est bientôt la fin des soldes. Je ne sais pas si vous saviez que c'était les soldes, mais c'est bientôt la fin des soldes. Et depuis quelques années, les boutiques en ligne aussi font leurs soldes. Donc acheter sur Internet, c'est relativement facile. Une carte de crédit, quelques clics et c'est parti. Le problème se pose quand vous devez recevoir ce que vous avez commandé. Là, il vous faut de la persévérance et de la patience. La livraison à domicile, finalement, c'est un concept qui a été inventé bien avant Internet. Non, pas forcément par la Redoute, mais c'est Dieu qui a inventé ce concept. Il l'a créé quand il a eu besoin d'apporter des messages directement à son peuple. On va lire ce matin ce qui est à l'écran. C'est dans le livre de Jérémie, donc le premier chapitre. J'ai choisi de ne lire que les versets 1 à 10 et 17 à 19. Finalement, ce qu'il y a entre les deux, c'est une prophétie qui ne m'intéressait pas pour ce que j'ai à dire. Donc Jérémie, chapitre 1. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Hilkiahu, l'un des prêtres qui habitait à Anatot, dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas, Seigneur, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tous ceux que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger, l'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Verset 17. Toi donc, mets ta ceinture et lève-toi. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer, un rempart de bronze, face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne leur porteront pas, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te protégerai. Ici s'arrête notre lecture. Le ministère de Jérémie donc débute à la 13e année du règne de Josias à Jérusalem et se termine à la déportation à Babylone. Dans le livre des rois, dans l'Ancien Testament, nous trouvons les faits marquants de chacun des rois ayant occupé le poste du trône de Jérusalem. À chaque fois, l'auteur précise si le roi était un bon ou un mauvais roi vis-à-vis de l'Éternel. Je prévois d'apporter deux éléments majeurs de ce texte. Tout d'abord, nous verrons le contexte dans lequel s'inscrit... Tout d'abord, nous verrons le contexte dans lequel il s'inscrit, puis nous tenterons de comprendre les détails de l'appel de Jérémie à être prophète. Pour le premier élément, le contexte historique, politique et spirituel, je vous propose la représentation suivante à l'écran. Donc tout d'abord, nous avons Ézéchias, je démarre tout en haut, dont le règne a duré 29 ans. Il a été un bon roi. L'auteur dit même de lui qu'il n'y en a aucun autre qui n'ait été meilleur que lui. Il a fait détruire tous les hauts lieux ses lieux d'adoration aux idoles. Sous son règne, Jérusalem a été très prospère et il a fait orner le temple de Salomon, le temple de Jérusalem. Ses successeurs sont d'abord son fils Manassé, puis son petit-fils Amon. Eux, ils ont malheureusement fait 57 ans de mauvais choix. Selon le deuxième livre des rois, Manassé est décrit comme un roi impie et idolâtre. Il rebâtit les lieux de culte païens que son père Ézéchias avait détruits. Il construisit des autels au dieu phénicien Baal. Il érigea un poteau sacré en l'honneur de la déesse Asherah qu'il installa tout simplement au cœur du temple de Jérusalem. Il bâtit aussi des autels consacrés aux astres célestes. Il brûla son fils en sacrifice. Il encouragea les pratiques de la nécromancie et de la sorcellerie. Rien que ça. Son fils Amon ne fit pas mieux, mais ses propres serviteurs écourtèrent son mandat en l'assassinant alors qu'il n'avait que 24 ans. Après ce temps d'idolâtrie, vint le fils d'Amon, Josias. Dans sa 13e année de règne apparaît Jérémie. C'est là que se déroule notre texte. 5 ans après ce texte, chamboulement, Josias retrouve, par miracle, le livre de la loi dans le temple de Jérusalem et prend conscience de son contenu. S'en suivront le renouvellement de l'alliance avec Dieu, la purification du temple de Jérusalem, la destruction des idoles, la réinstauration de la célébration de la Pâque. Et à la mort de Josias, rebelote, il y aura de nouveau une période de 22 ans avec 3 mauvais rois, puis la déportation. Dans notre texte, Dieu a besoin d'un prophète. Il appelle Jérémie à être ce prophète. Ça fait 70 ans depuis la mort d'Ézéchias et le peuple de Juda, de Jérusalem, va mal. Les Israélites ont oublié Dieu. Ils vivent d'une manière qui déplaît à Dieu. Pour vous remettre dans l'ambiance, je vous rappelle les réalisations de Manassé, divers cultes païens, à Baal, Asherah, les astres célestes, perversion du temple, sacrifice de son fils, nécromancie et sorcellerie. L'alliance entre le Seigneur et le peuple était dans un tel état que Josias jugera bon de renouveler cette alliance avec Dieu. Jérémie est le dernier prophète avant la déportation. Durant les 22 années qui précéderont cet exode forcé vers Babylone, le peuple fera ce qu'il déplaît à Dieu et le Seigneur finira par appliquer sa sentence en envoyant le peuple en déportation. Dans ce contexte, l'Éternel missionne Jérémie d'être un messager pour apporter des avertissements au nom de Dieu. Pour reprendre l'histoire de la livraison citée en introduction, le peuple s'étant détourné du Dieu d'Abraham, il est nécessaire de livrer le message à domicile. Il faut donc apporter les avertissements au cœur de Jérusalem. Passons au second élément et voyons les détails de l'appel à être prophète. L'appel de Jérémie est une déclaration. L'Éternel m'adresse la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Jérémie n'est pas devenu prophète. Il l'est depuis la naissance. C'est, si vous voulez, son ADN. Il n'est pas devenu prophète comme on devient médecin, avocat ou boulanger. Dieu l'a établi. Jérémie, en contrepartie, argumente de n'être qu'un adolescent, de ne pas être capable de s'exprimer à la hauteur de la mission qui lui est confiée. Il est estimé que Jérémie aurait eu à peu près 18 ans à l'époque de cet appel. C'est très jeune pour un rôle d'exhortation publique comme ça. Pour répondre à cet argument de l'adolescence, l'Éternel vient le rassurer par 2 fois. Dans un premier temps, il l'encourage à ne pas avoir peur de ceux à qui il va parler. Il lui dit, « N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger, l'Éternel le déclare. » Notez cette formulation, « L'Éternel le déclare. » Elle a quelque chose de solennel. C'est un engagement formel de la part du Seigneur. Il dit aussi, « Car je suis avec toi pour te protéger. » La protection de Jérémie est la mission que le Seigneur s'engage à avoir. Dans un second temps, il démontre à Jérémie qu'il n'est qu'un intermédiaire, qu'une bouche pour Dieu. Le récit nous dit que l'Éternel, avec sa main, touche la bouche de Jérémie pour montrer qu'il met lui-même ses paroles dans la bouche du prophète. Cet anthropomorphisme, cette humanisation de la présence de Dieu nous montre à la fois la proximité entre les deux protagonistes, mais aussi l'engagement du Seigneur envers son envoyé. À l'écran, vous avez les 5 points qu'on vient d'aborder. Premièrement, nous avons vu que Jérémie intervient dans un contexte difficile. 70 ans depuis Ézéchias, 70 ans d'idolâtrie, de non-respect des commandements. Le peuple est, à cause des mauvais rois Manassé et Amos, détourné de Dieu. En 70 ans, rares devaient maintenant être les personnes qui avaient connu l'époque d'Ézéchias. Second point, de l'autre côté de la chronologie, Jérémie est le dernier prophète avant la sentence annoncée. Dans le contexte du peuple de Juda, cette sentence sera la déportation à Babylone et la destruction partielle de Jérusalem. Troisième point, nous avons vu que Dieu et Jérémie entretiennent une relation proche. Le prophète a été choisi par Dieu dès sa naissance. L'Éternel s'engage envers Jérémie. Quatrième et cinquième point, Dieu s'est engagé à le protéger, à lui donner les mots dont il aura besoin pour accomplir sa mission. En synthétisant ces 5 points, nous pouvons faire un parallèle avec notre vie, avec notre société aujourd'hui. Avez-vous noté que Dieu n'a pas vraiment la cote aujourd'hui ? Ce pays ne vit pas seulement 70 ans de pauvreté spirituelle. Depuis plusieurs générations, aller à l'église n'est pas l'activité de tendance du dimanche matin. Merci d'être venu. La grasse matinée, le jogging et la sortie au marché ont pris le dessus. Les seules références publiques à la religion, au spirituel, sont les attentats islamiques, Paris, Bruxelles et malheureusement Nice. Et puis l'interminable guerre israélo-palestinienne. Dans notre vieille Europe, être croyant est démodé. Les valeurs tendances sont, je ne sais pas, la réussite personnelle, l'amitié, l'amour. Bien que ces valeurs soient tout à fait louables, elles sont centrées sur l'homme et non sur Dieu. En tant qu'Église universelle, nous sommes le dernier prophète avant la fin des temps. Je le répète, parce que c'est important. En tant qu'Église, nous sommes à la fois, tous ensemble et individuellement, le dernier prophète avant la fin des temps. Aucun autre n'a été annoncé dans la Bible. Quand Jésus reviendra, ce sera trop tard. Pour celles et ceux qui n'auront pas cru, qui n'auront pas entendu. La déportation à Babylone est une image des choses à venir pour ceux qui n'auront pas cru à Jésus-Christ. Tout comme Jérémie a été choisi, a été établi comme prophète dès sa naissance, par notre nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous sommes de fait prophètes pour l'Éternel. Notre statut de croyant, de chrétien, nous invite à être témoins. Je cite Acte 1, verset 8. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans notre ville, dans notre quartier, auprès de nos voisins, de nos amis, le Seigneur nous demande de livrer à domicile le message qu'il souhaite apporter. N'attendons pas de Chronopost ou d'UPS qu'ils le fassent à notre place. Ce n'est pas eux, sauf s'ils sont chrétiens, que le Seigneur a désigné pour le faire. Ce message, nous le connaissons. C'est celui auquel nous avons cru. L'Éternel nous a déjà donné les mots que nous devons dire. Notre mission n'est pas tant de parler que d'être des témoins, comme le dit le verset dans Actes cité précédemment. De plus, je n'ai pas cité le verset en entier. Ce verset 8 commence ainsi. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Si l'Éternel toucha les lèvres de Jérémie pour lui montrer qu'il mettra ses mots dans sa bouche, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous dira quoi dire. Finalement, l'Éternel protège aussi notre vieille Europe. Avouer croire en Dieu, prêcher son message, raconter notre vie avec lui n'est pas répréhensible par la loi. Je me tiens devant vous ce matin, dans cette église, je ne crains rien, si ce n'est un peu de trac de parler en public. Nous avons distribué des flyers, invité des amis au concert du Living Hope Band, et personne n'a été malmené par un passant ou arrêté par la police. Je crois que nous vivons une époque parfaite pour annoncer Christ, et ça pour trois raisons. La première, je viens de la dire, en France, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à craindre de parler de Jésus-Christ. Par exemple, les chrétiens d'Afrique du Nord n'ont pas cette chance. La seconde est que le nombre de personnes qui sont très loin du Seigneur est énorme. Je ne sais même pas dire s'il y a 2 protestants pour 1000 dans l'agglomération de Clermont-Ferrand. C'est environ 500 000 habitants. 2 pour 1000. La troisième est que cette génération met en avant une recherche du bonheur dans une vie professionnelle, dans son foyer, dans sa famille, avec ses amis, etc. Si vous voulez tendance, si vous voulez suivre le move dans votre témoignage, vous pouvez annoncer le fait que faire votre vie aux côtés de Jésus-Christ vous rend heureux. Qui plus est, Jésus-Christ est présent dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons donc être heureux dans tous les aspects de notre vie. Ce texte nous parle d'envoyer un prophète pour parler aux personnes de son époque, avec ses mots et son vécu. Voici quelques pistes pour livrer à domicile le message biblique. Soyons heureux, je viens de le dire. Soyons heureux dans tous les aspects de notre vie. Marquons la différence, ne cédons pas à la tentation d'être français et de râler pour tout et son contraire. Soyons heureux de notre travail, car c'est peut-être là que nous passons le plus de temps. Soyons heureux de notre famille, auprès de nos amis. Montrons-leur que même quand la vie est difficile, nous sommes heureux car Dieu nous aime. Parlons de Christ, de son œuvre, de ce que ça change dans notre vie. Évitons les débats intellectuels sur la religion. Le message le plus approprié est souvent le récit de votre propre conversion. C'est un exemple concret, vivant, de ce que Dieu arrive à faire encore à notre époque. Persévérons et gardons en tête qu'il n'y aura peut-être personne après nous pour parler de Dieu à nos proches. Nous sommes tous des envoyés du Seigneur. Ne craignons pas d'être mis à mal pour ce que nous disons. Le message sera peut-être mal reçu, mais c'est une affaire entre Dieu et la personne qui écoute. Dieu était là pour protéger Jérémie. Dieu est encore là chaque jour pour nous protéger. Je terminerai en m'adressant à celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore choisi de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Cette mission de prophète ne vous parle probablement pas. Ce texte, ou plus exactement le contexte dans lequel se passe le récit, vous annonce que Dieu devra choisir de vous mettre d'un côté ou de l'autre, avec un pouce positif « j'aime » à la Facebook ou un pouce négatif vu dans les péplums romains. Jésus-Christ est celui que nous annonçons, car il est la clé pour être pardonné de Dieu. Le choix vous appartient. Je vous propose de prier. Seigneur, il est difficile dans notre vie aujourd'hui, surtout vis-à-vis de l'actualité, de vouloir apporter un message qui est en contradiction avec le mode de vie de notre société, un message qui dit que croire en Dieu, c'est bien. Seigneur, nous voulons être porteurs d'un message d'amour et non d'un message de guerre, d'un message de violence. Seigneur, aide-nous à être des témoins chaque jour, à porter fidèlement ce message de bonheur, d'amour, de paix que nous vivons chaque jour avec toi. Amen.